Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Douce France.
RTL.
Cher pays de mon enfance.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais la France est aussi un pays où il n'y a quand même pas 50 millions d'abrutis.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elle est jolie, notre France, elle est jolie, elle est incroyable, elle est insolite aussi. Tiens, d'ailleurs, demain, plus de 160 millions d'euros à gagner, c'est ça, l'euro million? Vous avez joué demain?
J'ai joué, bien sûr.
Je doutais. Moi, j'ai pas joué. Oh.
Comme des millions d'Européens, j'ai joué.
Du coup,
il est encore temps. Hein.
Non, mais il y a une question qui se pose, c'est où est-ce qu'en France, on a le plus de chances de gagner au loto? Et figurez-vous qu'on a la personne qui est capable d'y répondre, elle est juste en face de nous, vous êtes obligé de rester avec nous, c'est Olivier Marchand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur et auteur, et l'un de vos dadas c'est de répondre, de vous poser des questions absolument farfelues et d'y répondre.
Voilà, exactement.
Vous êtes un peu comme nous en fait.
Bah, comme tout le monde, j'ai l'impression.
Vous êtes un curieux, non?
Ouais, c'est ça.
Alors, où est-ce qu'on a le plus de chances de gagner au loto en France?
Il semblerait, est-ce que je fais durer le suspense ou pas?
Ah non, allez-y.
Non, j'y vais. Non, il semblerait que ce soit en Creuse qu'il y a eu le plus de gagnants en France. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a le plus de chances de gagner là-bas? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est là qu'il y a eu le plus de gagnants, proportionnellement à la population.
Et le moins de gagnants, vous vous en souvenez?
L'Indre.
Ah.
C'est juste à côté, en plus, il suffit de passer la frontière. Donc
mais oui, c'est ça.
Vous
donc
plantez pas de bureau de tabac. Bah,
les si habitants de l'Indre, vous faites quelques
kilomètres. Vérifiez bien où vous êtes.
Il y a une explication, Olivier Marchand?
Bah non, il n'y en a pas, c'est le hasard. Donc voilà. Mais après, si vous êtes superstitieux, allez en Creuse et puis jouez là-bas.
C'est une bonne pub pour aller vivre dans la Creuse, en tout cas.
Alors en plus, c'est quand même un des départements les plus vides de France. Hein, donc je pense que les loyers ne doivent pas être très chers.
Donc ça veut dire qu'avec les 160 millions de l'euro million, on peut acheter le département.
On peut acheter le département, surtout, j'allais dire,
les Creusois
vont pas être. Avec les économies de loyer, vous pouvez jouer au loto. Enfin bref, voilà.
D'accord. Alors on va s'amuser avec Sidonie. Ouais. On va vous poser plein de questions qu'on a trouvées dans votre atlas de la France incroyable. Où trouve-t-on le, puisqu'on parlait du loto et de l'euro million, où trouve-t-on le plus de riches sur le territoire?
Globalement, Paris, Côte d'Azur. Voilà. Ça c'est pas vraiment une surprise, on va
d'accord.
dire.
D'accord. Et voilà. Plus de pauvres?
Ben c'est un peu pareil en fait. C'est là où c'est étonnant. Mais disons que la répartition des pauvres, on va dire, est quand même un peu plus homogène que la répartition des riches. Les riches ont peut-être tendance à être plus entre eux, je ne sais pas.
D'accord, l'impôt sur la fortune, c'est
Paris.
Paris aussi.
Paris, Côte d'Azur, voilà. Et puis évidemment, Hauts-de-Seine, les départements limitrophes, hein, mais assez classiquement.
Quelles sont les régions, Olivier Marchand, où il y a le plus de plans sociaux? On en a beaucoup parlé
Paris
ces
aussi,
dernières années.
Désolé, hein, c'est un peu toujours la même réponse, mais alors il semblerait.
Mais c'est parce que c'est lié à la démographie ou
non, à la quantité de sièges sociaux qui sont
d'accord.
à Paris. Souvent, un plan social qui a lieu dans les Bouches-du-Rhône ou ailleurs peut venir de Paris. Donc, vous voyez, les Parisiens emmerdent les provinciaux, même à distance.
Autre question, on reste dans les sous. On aime bien poser des questions sur les sous. Quelles sont les régions où l'on fraude le plus le fisc?
Eh bien, c'est Paris. Désolé encore une fois.
Alors en fait,
ah ça c'est Thomas encore.
Je sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs parisiens, mais je pense qu'ils vont tous éteindre leur poste là. À force, il va peut-être falloir aller vers d'autres régions. Mais non, Paris effectivement, probablement pour la même réponse que pour celle des pans sociaux, c'est que c'est un petit peu technique, mais les fraudes fiscales constatées sont en fait des enquêtes de police. Donc ça veut dire que c'est quand même les gros cas, hein. C'est pas le petit redressement fiscal de monsieur tout le monde, donc c'est les grosses enquêtes de police. Donc à partir de là, ça veut dire que c'est des gros cas, donc les entreprises probablement. Mmh. Voilà.
Avant de continuer la liste, pourquoi vous avez eu cette idée saugrenue de publier cet atlas de la France incroyable? Parce que
aux éditions
c'est quoi,
autrement,
c'est une façon de voir la vie autrement, c'est ça, en passant
sûrement,
par des cartes.
Ouais. Écoutez, moi c'est un peu né d'une rencontre avec mon éditrice en l'occurrence. Disons que j'ai écrit un livre l'année dernière, c'est Mont Blanc n'est pas en France, qui racontait des histoires de bizarreries géographiques des territoires qui ont des histoires un peu bizarres, qui n'ont pas de nationalité ou des doubles nationalités. Enfin voilà, des trucs un peu curieux. Et en rencontrant mon éditrice, on a eu cette idée, on a germé l'idée d'un atlas un petit peu différent. On voulait dépoussiérer un tout petit peu l'image de l'atlas. On voulait s'amuser un petit peu avec les cartes et les données. Il y en a beaucoup, on peut s'amuser avec. Voilà.
On a parlé d'argent, on peut parler de sexe un peu.
Là, vous m'intéressez.
Où trouve-t-on le plus de clubs échangistes en France? C'est une question que vous êtes posée, Olivier Marchand.
Dans l'Hérault, tout simplement, parce qu'il y a le Cap d'Agde là-bas.
Ouais.
Le Cap d'Agde qui est connu pour son atmosphère libertine. Il y a une forte concentration de clubs échangistes là-bas. Alors après, à égalité avec Paris, une fois de plus, c'est pas une surprise.
Est-ce qu'il y a des départements où il n'y a pas de club échangiste?
Oui, alors les Hautes-Alpes, comme je dis dans mon bouquin, les Alpes de Haute-Provence, voilà.
Et comment vous dites, c'est le froid, c'est quoi?
Exactement. Comment?
C'est le froid, c'est pour quelle raison?
Bonne question, faudrait leur poser. Non, mais ça veut dire que là aussi, il y a peut-être des marchés à prendre. Hein. S'il n'y a pas de club échangiste dans ces départements, peut-être qu'on peut en ouvrir un.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, tiens, en préparant ce livre et dans cette découverte statistique sur
que la France était championne du monde de Meulcu.
De
Meulcu, vous savez, cette espèce de pétanque en bois là, c'est un truc qui fait fureur là. 80 000 exemplaires vendus tous les ans en France.
C'est quoi,
championne du monde. C'est une sorte de pétanque. J'ai jamais joué.
Des boules carrées ou
avec des numéros, balancer un. J'ai rien compris aux règles, mais la France est championne du monde, voilà.
De Meulcu.
La Thaïlande est numéro 1 de la pétanque quand même devant la France. Alors ça fait un peu mal. Hein. Ils sont très très organisés là-bas. Parce qu'évidemment, on parle de la France aussi dans le monde, voilà. Et la Thaïlande.
Et on a plein d'autres questions. Où prend-on le plus de Viagra? Ça m'intriguait pas mal, ça. Où vivent les Français les plus heureux? Ça aussi, ça m'intéresse. Je suis sûre que vous êtes tous déjà posé la question. On vous donne la réponse sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL. 20h-22h,
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et avec notre invité Olivier Marchon, on explore la France sous tous les angles. On se pose des questions en apparence sans importance, mais en réalité très instructives. On parlait sexualité avec donc cette question qui nous importe tous. Où prend-on le plus de Viagra en France?
C'est en Moselle. Voilà.
Moselle. Quelles autres régions?
Plutôt, c'est globalement l'est de la France, le sud-est en particulier, mais la Moselle est le champion du monde de la consommation de
Viagra. Mais est-ce que vous avez une explication?
Je pense que c'est parce que Moselle, c'est presque l'anagramme de mollesse. C'est un peu la seule explication que j'ai trouvée. Non, honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait leur poser la question. Je suis pas sûr que les sondages en la matière permettent d'extirper une explication, mais voilà.
Vous pensez que c'est peut-être une. Oui, on va pas chercher à. Je vais garder mes analyses fumeuses pour moi.
Moselle, mollesse.
En tout cas, j'apprends dans votre livre que les ventes de Viagra et de ces médicaments génériques, ça pèse près de 138 millions d'euros en France en 2013. C'est pas mal quand même.
Ouais.
Il y a des infos dans cet atlas.
Ouais, presque autant que le loto.
Une question qui me plaît beaucoup, c'est où est-ce qu'on est le plus heureux en France?
Dans le Nord. C'est classique. Hein. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Voilà,
comment on calcule ça?
Alors ça, faut poser la question à l'IRB. On a repris un sondage, l'Institut de la Recherche sur le Bonheur, c'est un institut canadien, d'accord, qui a fait une étude, qui a découpé la France en zones et qui a fait une étude là-dessus. Voilà.
D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on calcule souvent la bonne santé d'un pays en fonction de sa croissance. Mais il y a des gens qui disent qu'il faudrait calculer en bonheur national brut.
Bonheur national brut. C'est vrai que le Bhoutan, d'ailleurs, est le premier pays qui compte autrement son bonheur, en tous les cas, qui met en avant l'indice du bonheur national brut avant le PNB. D'ailleurs.
Et vous savez si la France est bien classée dans
aucune
le concert
idée,
mondial?
Il n'y a pas cette information encore rentrée là-dedans. Hein.
D'accord.
Alors pour répondre, sinon l'IRB, ils ont fait une étude simplement par sondage. Hein. Est-ce que vous êtes heureux, etc. Donc voilà.
Autre question un peu moins drôle, mais importante aussi. La région en France où l'on se suicide le plus, Olivier Marchon.
Les Côtes d'Armor.
La Bretagne, donc.
Oui, la Bretagne. Et plus particulièrement, le département des Côtes d'Armor. Alors, il y a un viaduc là-bas, le viaduc de Dinan, qui, paraît-il, enregistre une tentative de suicide par jour. Elles réussissent peut-être pas toutes, mais voilà, c'est un peu dramatique.
Les régions où il y a eu le plus de batailles, ça c'est intéressant aussi.
Alors, le nord de la France, globalement, c'est pas une surprise. La Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et puis la Vendée, mais probablement à l'époque des Chouans, les guerres civiles de la Révolution.
Excusez-moi, j'étais en train de regarder.
J'attendais une question.
Non, mais on feuillette l'atlas en même temps parce qu'il est passionnant.
on en a plein des questions. Hein. Alors attendez, j'étais où dans votre atlas? Vous reportez. Ah oui, ça j'adore. Vous faites une carte passionnante sur le nombre de bises qu'il faut distribuer dans chaque région. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais le nombre de fois où j'ai tendu la joue pour attendre une troisième bise et qu'elle n'est jamais arrivée et que j'ai eu l'air un peu idiote. Et là, enfin, j'ai la réponse. Alors, on va décrypter ça, on va prendre un peu le temps de décrypter.
Ouais. Bah écoutez, c'est assez simple. Grosso modo, c'est deux bises en France. Il y a deux foyers de résistance qui sont la Bretagne, le Finistère, les Deux-Sèvres, où on fait une bise. Il y a toute une zone au centre où on en fait quatre. Et puis, au sud, globalement, on peut en faire trois. Voilà. Alors après, je ne dis pas dans quel sens elles se font. Il paraît qu'en Corse, on les fait dans le sens inverse qu'à Paris. Voilà. Donc, si jamais vous allez en Corse.
On les fait dans le sens inverse aussi. On les fait de gauche à droite.
je suis en train d'essayer de visualiser.
Mais Thomas, il fait pas de bise, il serre la main en fait.
Personnellement, j'en vois
à droite, pas à gauche.
Donc, ah oui, oui, donc voilà. C'est. Ça, c'est quoi? C'est la gauche? Je sais plus. Oui, ah, c'est la droite.
Alors, si on connaît pas sa gauche,
c'est
la droite en plus.
Ah non, c'est ma droite. Bon, bref. Les bises. En tout
le
cas.
Mieux, c'est l'embrasser sur la bouche, hein, puis on n'en parle plus.
Oui, bah, avec Thomas, on serre la main quand
à
même.
À la russe. Est...
Pardon.
À la russe. Vous avez une petite question, vous, Thomas?
Mais oui, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une question, justement, que vous vous êtes posée?
Ouais,
et à laquelle vous n'avez pas pu répondre.
Alors, j'aurais bien aimé savoir quelles étaient les régions dans lesquelles il y avait une dominante de chiens ou une dominante de chats. On n'a pas trouvé de données là-dessus.
Ah oui.
C'est un peu dommage. Donc, du coup, on a fait une carte avec la répartition des cimetières animaliers.
Mais quelle idée, oui, j'ai vu ça.
On voulait parler des animaux. Si vous voulez, on voulait quand même que cet atlas y ressemble un petit peu à ce qu'est la France. La France, c'est les premiers pays pour le nombre d'animaux de compagnie. Donc, on voulait un truc sur les animaux de compagnie. Bon, on a trouvé les cimetières. On l'a abordé d'une manière un petit peu dramatique.
Et alors, mais du coup, les leaders français en matière de cimetières.
Ah, si, bah, il y a le cimetière, le célèbre cimetière d'Asnières-sur-Seine, qui est une sorte de Père-Lachaise des animaux. D'ailleurs, il y a Rintintin qui est enterré là-bas. Il y a d'autres animaux connus. Enfin, moi, je les connaissais pas, mais apparemment, qui sont connus là-bas. Vous pouvez y aller. On peut le visiter. Il paraît que c'est très très beau, il y a des fans.
Donc ça place les Hauts-de-Seine en tête des départements où il y a plus de
alors cimetières. Alors non, pas plus. Il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a, ouais. Il y a peut-être une quarantaine de cimetières en France. C'est pas non plus un truc très très développé.
Et alors comment vous vous êtes organisé? Vous avez fait un groupe de copains avec chacun faisait sa liste de questions improbables.
On a fait une task force. C'était quoi? Avec l'éditeur, on a beaucoup travaillé avec Aurélie Boissière qui a fait toute la cartographie à qui je rends hommage ici parce qu'elle a fait un travail fabuleux.
Les cartes sont très jolies.
On a fait des recherches ensemble. On est allé chercher tout un tas de données absolument partout. C'est probablement un livre qui n'aurait pas été possible sans l'ère de l'internet parce qu'on est à l'ère du big data aujourd'hui. L'INSEE a ses données publiques, tout un tas d'agences publiques rendent leurs données publiques. Voilà, donc on est allé les chercher un peu partout. On a fait des cartes avec, on s'est amusé quoi.
Et une autre question, là aussi que je ne m'étais jamais posée, c'est où trouve-t-on le plus de rues du 18 juin en France, Olivier
Marchand? Alors ça je ne saurais pas vous dire. En revanche, je peux vous dire où on n'en trouve pas et on n'en trouve pas en particulier en Haute-Marne, là où il y a Colombelles et deux églises.
C'est vrai que c'est
assez étonnant. Il y a probablement une avenue Charles de Gaulle de ci, de là, ça ne m'étonnerait pas, mais il n'y a pas de rue du 18 juin en Haute-Marne, là où le général de Gaulle a été enterré.
Bah, on voit quand même dans l'Atlas qu'il y a pas mal de... Alors attendez que je m'y dirige. C'est dans le Nord et en Bretagne qu'il y a le plus de rues du 18 juin.
Ouais.
Voilà.
Comment l'expliquer? Je ne sais pas.
Il n'y a pas forcément d'explication, mais c'est amusant. En
exactement.
Tout cas, c'est des anecdotes.
Non, c'est vraiment amusant à constater. Si vous voulez, c'est une porte d'entrée vers la France, ce bouquin. Voilà. Après, on se pose les questions qu'on veut.
Incroyable.
Et on continue de découvrir cette France incroyable avec d'autres questions. Tiens, quels sont les prénoms les plus performants au bac et puis, quelles sont les régions où il y a le plus de tanguis? Alors, un tanguis, vous savez ce que c'est? Ce sont ces jeunes adultes qui restent.
J'en ai été une.
Qui restent, c'est vrai?
Ouais.
Oui, mais sympa.
Mais
il n'y
a pas pour les filles, en fait.
Parce qu'il y a des tanguis insupportables.
Ah, vous en avez un chez vous?
Non, ils sont top, mes enfants, qui restent chez leurs parents pendant très, très, trop, trop longtemps. Réponse sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL.
Ce camembert chinois se frise à la Bastille.
Jusqu'à 22h.
C'est ça la France.
RTL. Curiosité est un vilain défaut.
En regardant vers le pays de France.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Comme le Laurent vous le dit, on regarde vers le pays de France, cette France incroyable avec Olivier Marchand. Chaque région a sa spécialité, le loto, le Viagra, le bonheur ou la fraude fiscale. Une nouvelle question, quelles sont les communes qui ont changé de nom à la Révolution? Vous les répertoriez dans votre atlas, ah, c'est assez irrésistible.
Il y en a un paquet, il y en a 1200, donc on ne va pas toutes les citer ici. Non, ce qui est marrant, c'est de dire à la Révolution, c'est vraiment la période de la terreur, hein, où la Révolution était vraiment au plus haut. Donc on a demandé aux communes de changer leur nom. En fait, l'idée, c'était d'éliminer tout ce qui pouvait rappeler l'ancien régime, donc la noblesse, le clergé, etc. Donc déjà, tous les villages qui avaient saint dans leur nom, c'était même pas la peine, fallait qu'ils l'enlèvent. Puis après, vous avez des villes comme Versailles. Évidemment, Versailles, bah, c'est devenu berceau de la liberté. Une ville comme Grenoble, il y avait noble dedans, on l'a appelé Grelibre. Une ville comme Châteauroux, il y avait château dedans, donc on l'a appelé Indreville. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont passées. Alors, il y a des gens...
À Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, ouais, Marat, voilà. Bayonne est devenu Jean-Jacques Rousseau. Donc à l'époque, on pouvait manger du jambon de Jean-Jacques Rousseau.
Voilà. Saint-Malo, commune de la Victoire.
Saint-Malo, commune de la Victoire. Saint-Lô, rocher de la Liberté. Monaco, Fort d'Hercule. Donc voilà, le Grand Prix de Fort d'Hercule. Donc Monaco. Festival de Cannes, c'était le festival de Chalier. Et puis il y avait un truc que je trouve assez étonnant aussi. Hénin-Beaumont, donc ville conquise par le Front National, s'appelait l'Humanité. Voilà.
Ah, c'est assez drôle, effectivement. Les noms de famille, tiens, si on s'intéressait aux noms de famille les plus courants dans la région, alors c'est quoi? Vous avez ça région par région, en fait?
Alors, région par région, ouais, on sait que Martin est le nom le plus courant en France. Voilà. D'accord. C'est pas Dupont, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mmh. Mais si on regarde par région, il y a des petites disparités. Donc globalement, il y a Lefèvre au nord, et Marie en Normandie, Le Gall en Bretagne. Martin est quand même pas mal réparti sur le reste du territoire.
Oui, Martin, c'est Muller,
Fèvre, Moreau, Fort, Marty, voilà, Vidal et Casanova en Corse. Voilà.
Muller aussi, ouais. Dans
Meyer,
le nord-est.
Meyer, Muller, plutôt en Alsace-Lorraine, on retrouve l'influence germanique. Marie en Normandie, c'est marrant.
Voilà. Alors, à propos de prénoms, Olivier Marchand, c'est assez étonnant. Quels sont les prénoms les plus performants au bac? Vous avez réussi à les lister, comment c'est possible?
Alors, Adèle, si vous appelez Adèle, vous avez plus de 20% d'avoir une mention très bien au bac.
Ah oui.
Voilà.
Ah, quand même.
Alors en fait, les parents. Comment vous avez appelé votre petite fille déjà?
Bonnie Rose.
Bonnie Rose, vous ne l'avez pas dans votre liste, je suis sûr. C'est beaucoup trop original.
Non, je suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de statistiques. Quand elle passera le bac, peut-être qu'on pourra s'y intéresser. Puis on
mais sinon, c'est drôle d'imaginer des parents là, qui nous écoutent, qui disent tiens, si on l'appelait Adèle pour qu'elle ait son bac dans 18 ans.
En revanche, il ne faut pas les appeler comment les enfants?
Sabrina, Jordan, Mélissa, Kevin. Bon, voilà.
Ça marche pas, ça.
Multipliez pas les chances.
Si on s'appelle Camille, Thomas.
Camille, on est dans le milieu, voilà. Thomas, je ne sais pas si vous avez eu votre bac avec mention très bien Thomas, mais...
Ah oui, Thomas.
J'ai pas eu la mention très bien, non.
Mais Thomas, ils sont un peu au milieu, ils sont un peu moyens.
Ouais, bah, c'est sympa, ça.
9%.
Non, mais non, sur le schéma d'Olivier Marchand.
J'ai eu peur, parce que je suis prêt à quitter ce studio de rechef.
Depuis que vous avez fait l'imitation de Donald, vous êtes quand même dans mon panthéon.
Oui, j'ai un nouveau métier qui s'ouvre à moi. Non, moi, j'ai eu mon bac, parce que vous voulez que je raconte ma vie, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, voilà, c'était correct, c'était moyen, finalement.
Ne me demandez pas.
C'était assez bien.
Voilà, c'était assez bien. Allez, on continue. Je l'ai annoncé tout à l'heure, et c'est vrai que ça, c'est une question qui est originale et que se posent peut-être les parents dont les grands-enfants refusent de quitter la maison ou l'appartement. On les appelle des tanguis. Ouais. Quelle est la région, quelles sont les régions où il y en a le plus en France?
Île-de-France, la Moselle. Alors, je ne sais pas du tout si ça a un rapport
avec
le Viagra.
Attendez.
Je laisse les auditeurs tirer les conclusions qu'ils veulent.
On fait beaucoup d'enfants et ils restent longtemps à la maison.
Peut-être, je ne sais pas. Ou alors, on prend du Viagra quand on est ado et qu'on reste chez ses parents. Je ne sais pas. Je veux même pas en parler.
Toutes les utilisations du Viagra sont possibles.
La Corse, où on a le sens de la famille, probablement. Oh. Un peu le Nord, voilà.
On a une explication, là aussi, on vous pose un peu toujours la même question, mais parfois il n'y en a pas, parfois il y en a.
Ah, pas, alors c'est à la fois, on a peut-être. Il fait froid dehors, on a plus peur du monde, chômage de masse, peut-être la flemme aussi, tout simplement. Il y a un moment.
C'est pas forcément lié à la situation économique, par exemple,
d'un département, d'une région. Probablement. Alors. La disparité, faudrait regarder, faudrait comparer.
Parce qu'il y a les régions aussi où les enfants ne restent pas longtemps. Il y a par exemple les Landes, là on fuit.
Peut-être que les parents sont horribles là-bas, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais vous mettre mal avec pas mal d'auditeurs.
Alors, une question qui n'a strictement rien à voir, mais c'est aussi un peu notre spécialité, dont la curiosité est un vilain défaut. Vous répertoriez, Olivier Marchand, dans votre atlas de la France incroyable, les appellations régionale de la serpillière.
Ah ouais,
mais on n'appelle pas ça une serpillière partout.
Et non.
Alors déjà, dans le nord, je sais que c'est la Wachingue.
Dans le nord, il y a la Wassing, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'emballe, le duel, le Wazingue, la localoctée, la charpillière, l'emballage.
Le torchon à laver. Mais on dit vraiment ça ou...
Ah oui,
d'accord.
Bien sûr. Il y a la loque à relocter aussi. C'est-à-dire que vous avez locté une première fois, puis vous allez relocter une deuxième fois. On ne sait pas avec quoi on locte d'ailleurs.
C'est dans quelle région, par exemple, Lafpont, c'est où?
C'est en Bretagne.
D'accord.
En Bretagne, donc probablement l'influence des marins.
J'adore la langue française, je suis en train d'apprendre des mots, j'adore ça.
On dit la quoi? La gueille.
La gueille. Dans le Lot-et-Garonne, où il y a le chiffon des pavés, il y a la toile, puis il y a des petites zones, voilà, la Paye, par exemple, du côté de Nîmes.
Oh, vous auriez pu faire aussi une carte avec, j'y pensais, vous savez, la manière de nommer des sacs Par exemple, oui. On dit un sac. Il y a des gens qui
le
disent
pochon.
Le pochon. Bon, en Bretagne, on dit le pochon. Et je crois que c'est dans le sud, on dit quoi? La poche.
La poche, ouais, je crois. On n'a pas fait.
Dites comment, Thomas?
On n'a pas fait la carte.
Moi, je dis le sac. Mais en revanche, une gueille dans le sud-ouest, effectivement, mais c'est même devenu une forme d'insulte.
Ah bon?
Ouais, t'es qu'une gueille. Donc c'est, tu vois, t'es qu'une serpillière. C'est quand on n'aime vraiment pas quelqu'un.
Oui, voilà. Parlez-moi mieux.
Mais je vous regardais pas vous précisément, voilà.
Alors encore, on passe vraiment du coq à l'âne. C'est le cas de le dire, mais on va parler de grenouilles. Ouais. On dit qu'on est le pays Olivier Marchand.
Pas du coq à la grenouille, mais on peut dire.
Coq à la grenouille. Ouais. On dit que la France est le pays de la cuisse de grenouille. En tout cas, enfin, on dit pas ça en France. En vérité, c'est surtout les pays qui viennent nous visiter.
C'est surtout les Anglais qui nous appellent les frogs.
On reste quand même le premier consommateur de cuisse de grenouille.
Et elle est quand même formidable votre carte, parce que où trouve-t-on le plus d'éleveurs de grenouilles finalement?
C'est dans la Drôme.
Il y a quel endroit?
Il y en a qu'un. Voilà.
D'accord.
Monsieur Patrice François, qui est le seul producteur de cuisses de grenouilles en France. Mais parce que c'est très difficile en fait d'élever des grenouilles, et apparemment lui est un des seuls à avoir réussi à le faire. On n'a pas le droit en plus de les ramasser en France, on n'a pas le droit de les chasser, donc on est obligé de les importer en masse, d'Indonésie en particulier. Mmh. Voilà, donc la France en fait importe ses grenouilles pour en manger des tonnes.
C'est la France métropolitaine Corse comprise, il n'y a pas les départements d'outre-mer, parce que à La Réunion, il y a un éleveur de grenouilles et de cuisses de grenouilles.
Alors on l'a peut-être loupé celui-là.
Non,
on fera un complément.
Donc ma question c'est France métropolitaine unique.
France métropolitaine.
D'accord,
tout à fait.
C'est pour ça.
Des questions zinzin inutiles et donc passionnantes. On en a encore plein pour vous. Vous allez pouvoir frimer demain auprès de vos amis. Merci RTL. Laurent Voulzy sur RTL, en regardant vers le pays de France, et nous on continue de regarder vers le pays de France qui nous réserve de belles surprises.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
En direct du Mondial de l'Automobile pour la curiosité est un vilain défaut, toujours dans le salon 2.2, et on se pose des tonnes de questions folles auxquelles on répond grâce à Olivier Marchand qui s'est passionné pour tous les régionalismes et les particularités françaises. Allez, on va aller au restaurant, je disais dans un 3 étoiles, mais d'abord dans les fast-food, où est-ce qu'il y a le plus de McDo en France?
Alors, il y en a, je vais plutôt vous dire là où il n'y en a pas en fait, c'est en Corse, il n'y a aucun McDo en Corse. Alors officiellement, McDonald's dit que c'est pour des problèmes logistiques. Bon, voilà, moi mon explication c'est qu'ils ont peut-être peur de se faire plastiquer, parce qu'il y a des Quick là-bas, eux ils n'ont pas eu de problème logistique, on faudrait peut-être que Quick donne la solution à McDo.
D'accord.
Voilà, sinon après, des McDo on en trouve un peu partout, mais surtout dans le sud de la France, en région parisienne, il y a des grosses concentrations de McDo en région parisienne, voilà.
Et à l'inverse, les 3 étoiles, on les trouve où?
Les 3 étoiles, on les trouve beaucoup à Paris. Et puis sur l'axe du Rhône. Sur l'axe de la National 7 ou de l'autoroute A6. Alors, est-ce que ça leur apporte des clients et ils se mettent là? Je ne sais pas. Bonne question.
Ça a dû leur en apporter
quelques-uns en tous les cas.
Il y a sans doute.
Est-ce que c'est l'influence peut-être de la cuisine lyonnaise, puisque on en a quand même beaucoup,
Georges Blanc, voilà. Anne-Sophie Pic,
Jacques Marcon.
Arrêtez, je n'ai pas dîné, c'est insupportable.
Il va falloir dîner. Moi, je dîne à 20h, je me brosse les dents à 21h, et après je continue de travailler.
Voilà, très bien. Alors le plus de bar tabac, tiens, en France, Olivier Marchand.
C'est dans quel département? Dans le Nord et en Bretagne. Voilà, est-ce qu'on s'ennuie là-bas? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que ça a un lien avec le suicide? Peut-être. Est-ce que ça a un lien avec le bonheur, par exemple, puisqu'on est le plus heureux au Nord? Peut-être aussi. C'est
le bar tabac.
Ouais, le bar tabac.
Ah oui.
Ouais.
C'est un lieu de sociabilité.
C'est un lieu de sociabilité. Ouais, c'est un lieu de sociabilité. Alors, faut savoir que les bars tabac, c'est une profession qui est hyper réglementée. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi en faisant mes recherches. C'est un peu comme notaire ou pharmacien. On peut pas faire ce qu'on veut. Déjà, par exemple, vous pouvez pas être propriétaire de 2 bars tabac. Ça, c'est un truc. Voilà, vous êtes obligé de mettre une carotte devant votre, vous savez, le truc rouge là.
Oui, bien sûr.
De votre voiture. C'est obligatoire. Les prix du tabac sont réglementés. Vous pouvez pas prendre vos vacances quand vous voulez. Enfin, bref. Buraliste, c'est pas simple.
C'est un métier compliqué.
Exactement.
J'ai appris, moi je le savais pas, qu'on pouvait pas être propriétaire de 2 bars tabac.
Non.
Voilà, encore une info passionnante
n'importe quel commerce à côté de votre bar tabac. C'est comme ça qu'évidemment, il y a des débits de boissons, il y a des PMU, et puis il y en a qui commencent à ouvrir aussi ce qu'on appelle les love shops. C'est une sorte de sex shop, mais en plus chic, pour Aller faire un peu plus de chiffre d'affaires. Voilà.
Olivier Marchand.
Ça nous ramène au Viagra.
Exactement.
une carte qui me plaît beaucoup. Ouais. C'est la surconsommation d'un produit d'une région à l'autre. Décryptez-nous ça un peu.
Déjà, ça veut dire quoi cette question?
Je pose des questions que je ne comprends pas parfois.
C'est une région. Mais non, c'est pas ça. C'est une région.
Qui consomme
plus d'un produit que par rapport au reste de la France. D'accord, en moyenne.
On parlait des tomates avec le prince jardinier Louis-Albert de Breuil.
On va faire un petit blind test avec Thomas. Ouais. Par exemple, le cidre, à votre avis, Thomas, où est-ce qu'on en consomme le plus?
Je vais dire Bretagne.
Ah, vous avez quand même du bon sens. Le nougat
à Montélimar.
Ouais. Et aussi les Pyrénées, les Pyrénées orientales.
Le sud-est en général.
Donc aussi. C'est quoi? C'est le tropisme de la région où qui a inventé le produit, c'est ça?
Il y a évidemment beaucoup de touristes qui achètent au passage. Vous allez du côté de Montélimar, vous achetez du nougat. Forcément, ça fait une surconsommation. Mm-hmm. Le cidre, c'est assez évident. Le calvados, bien sûr.
Les conserves de viande, c'est pas évident, ça.
Alors les conserves de viande, effectivement, il y a des trucs qui sont pas évidents du tout. Les viennoiseries surgelées dans l'Oise. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on surconsommait de la viennoiserie surgelée dans l'Oise.
Conserves de viande, on les consomme beaucoup dans le Nord, par exemple.
Ouais.
Et sur la frontière belge.
Ouais, voilà. Et la graisse à frire aussi, dans la Somme. Et puis, il y a le caviar. Il y a le caviar dans les Alpes-Maritimes, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne.
J'en ai jamais mangé, pourtant.
Dans le 93, en revanche, c'est l'infantile, exactement comme dans le Val-d'Oise. On s'occupe plus de ses enfants.
Le caviar dans le Sud-Est, Alpes-Maritimes, Paris, Hauts-de-Seine, ça rejoint la carte de la richesse et de l'impôt sur la fortune dont vous nous parliez tout à l'heure.
Ouais.
Si on se baladait maintenant du côté des centrales nucléaires, alors Olivier Marchand, mais c'est ça. On saute vraiment du coq à la grenouille, comme vous disiez tout à l'heure, Sidonie, grâce à votre atlas de la France incroyable. Alors les centrales nucléaires, où est-ce qu'il y en a le plus?
Alors, il y en a surtout, si vous habitez en Ardèche ou dans le Loiret, vous avez dans votre zone 4 centrales nucléaires. Je ne parle pas du nombre de réacteurs, ça doit faire 4 fois 4, presque 16 réacteurs. Mmh. Donc vous multipliez vos chances, on va dire, d'être victime un jour d'un accident nucléaire, si jamais il doit y en avoir un en France.
On touche du bois pour eux,
on touche du bois pour nous aussi.
Bien sûr.
Parce que depuis Tchernobyl, on nous a dit évidemment que
le nuage n'était pas passé au-dessus de la France.
Je pense qu'il vaut mieux pas compter dessus. Si vous voulez être tranquille,
la Corse et l'Est de la France qui avait été le plus touché par le nuage de Tchernobyl.
Si vous voulez être tranquille, vaut mieux habiter en Bretagne, où là, il n'y a pas de centrale nucléaire.
Mmh. Et du cidre.
Et du cidre, voilà.
Où est-ce qu'on trouve le plus d'anglais, Olivier Marchand, en France?
On trouve surtout énormément de résidences secondaires d'anglais en Poitou-Charentes, en Bretagne, grosso modo, et puis en Aquitaine. Alors, historiquement, c'est marrant parce que ça suit un petit peu ça suit la frontière de l'époque où l'Angleterre possédait une partie de la France, l'Empire des Plantagenets. C'est assez marrant de constater qu'ils continuent à venir. Coûte que coûte. On a beau essayer de les chasser, de les bouter hors de France.
Ils sont très sympas, les
Chaque année, on essaie de leur foutre la pâtée au rugby, mais ils reviennent. C'est pas possible.
Alors, moi, je suis passionné par les ovnis. Quel est l'endroit de France où j'ai le plus de chances d'en voir?
Alors, en fait, je vais un peu déflorer le truc, mais c'est proportionnel à la densité de population. Donc, ça veut dire qu'on est tous fous. Ça veut dire qu'on voit tous des ovnis, qu'on a tous autant de chances de voir des ovnis. Ce qui est marrant, en revanche, en appelant les gars qui font ces statistiques, parce qu'il y a un organisme très sérieux qui s'appelle le GEPAN, qui fait les statistiques, qui recueille les témoignages de phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisque c'est le terme.
Et qui les classe d'ailleurs.
La
crédibilité.
Il y en a 20% d'ailleurs qui ne sont non identifiés, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a quand même un doute.
Ce sont des ovnis qui viennent de très loin.
Ce qui est intéressant, c'est que il y a plus de signalements d'ovnis les jours de diffusion de Star Trek ou X-Files ou d'un reportage sur les ovnis justement à la télévision.
Mais ça, c'est pour les 80% qui trouvent une explication.
Exactement.
Mais pour les 20%, en revanche.
Je sais pas si vous êtes déjà allé dans des mariages avec des lanternes taille qui sont lâchées, vous savez, une centaine.
C'est très joli.
Il y a chaque samedi en été, les gendarmes du coin reçoivent des signalements. Ah, j'ai vu des tonnes d'ovnis dans le ciel. Alors, en fait, c'est des lanternes taille. Voilà, 20% des cas aujourd'hui.
On va continuer à parler d'ovnis, d'ovnis pour les hommes. Les femmes députées,
ouais.
Où est-ce qu'il y en a le plus en France et le moins, forcément?
Alors, le plus, je ne sais plus. En revanche, le moins, je peux vous dire, il n'y a jamais eu en Corse. Il n'y a jamais eu une seule femme députée en Corse. Voilà.
Alors, d'ailleurs,
Amis Corse, bougez-vous, quoi, c'est pas possible. Élisez les femmes la prochaine fois.
Mais d'ailleurs, en matière de femmes élues, au Parlement, la France est au 34e rang mondial, c'est ce qu'on lit dans votre
atlas. Derrière la Tunisie,
mais
devant
l'Afghanistan,
quand même. Ça va.
Merci infiniment, Olivier Marchand.
Bah, merci à vous.
C'était sympa ce tour de France, de la France incroyable aux éditions. Autrement, encore beaucoup de cartes qu'on n'a pas encore feuilletées.
On vous a posé combien, je ne sais pas, une quarantaine de questions. La France a musée, tiens, vous l'avez le... La région où il y a le plus de musées, c'est l'Île-de-France forcément.
Non, c'est à peu près bien réparti, j'allais dire. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout les musées insolites. Vous avez la musée de la douane et des frontières, la musée de la chemiserie des léonces masculines, le musée de la torture, le musée du corbillard. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts.
Et voilà, et ça nous donne des idées de balade pour ce week-end. Merci
Exactement.
Beaucoup.
Vous écoutez RTL.